Et voilà, Abidjan, capitale du jazz, ce festival s'ouvre aujourd'hui même, 1er mars 2024, et ce sera au Palais de la Culture. À 7h, vous aurez Didier Blé pour le journal. Restez à l'écoute de Radio de la Paix.
Radio de la Paix, il est 7h. De 7h. Didier Blé.
Merci de nous retrouver. Bienvenue à cette édition et puis bon réveil à tous et à toutes. Le gouvernement ivoirien veut renforcer la sécurité du pays à partir des ambassades, volontés et informations portées lors du Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024. La mutuelle panafricaine de gestion des risques a organisé un dialogue politique ce mercredi 28 février à Abidjan autour du thème genre, urgence sanitaire et gestion des risques de catastrophe. Des échos dans cette édition avec Jean-Claude Mabéa. En page africaine au Tchad, le principal opposant à la junte, Yaya Dillo Djerou, tué par l'armée au siège de son parti. Nous aurons la revue des titres avec Jean-Mélène Bitti vers la fin de cette édition. Et puis en toute fin de journal, nous aurons l'invité de la rédaction qui aujourd'hui est le président de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Le professeur Antoine Owoasepo reviendra sur le rôle et la mission de l'institution et cela à l'occasion de la célébration de son 20e anniversaire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous. Conseil des ministres du 28 février 2024, le gouvernement ivoirien veut renforcer la sécurité du pays à partir des ambassades. Des postes d'attachés de sécurité sont prévus à cet effet dans un projet de décret. On revient donc sur cette information avec le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly.
Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant le poste d'attaché de sécurité intérieure auprès des missions diplomatiques de la République de Côte d'Ivoire accréditées auprès donc des pays étrangers. Ces postes seront occupés par des agents issus des personnels de la police nationale avec pour mission de prémunir, en synergie avec les autres services de sécurité, le pays contre les trafics ou projets criminels conçus en dehors de nos frontières.
Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Et puis la mutuelle panafricaine de gestion des risques a organisé un dialogue politique ce mercredi 28 février 2024 à Abidjan autour du thème « Genre, urgence sanitaire et gestion des risques de catastrophe ». Ce forum a donné l'occasion aux décideurs, politiques, partenaires et autres partis d'explorer des pistes pour des actions politiques et programmations cohérentes, là, afin d'assurer une protection maximale des populations et des communautés. Jean-Claude Mabéa.
Les résultats et recommandations de l'étude menée dans les aires sanitaires d'Abidjan et de Mouin ont été présentés par Tracy Agbé, l'expert en genre et consultant recruté par l'ARC pour le projet.
Il faut que déjà au niveau politique, qu'on revoie les textes pour que la question des genres devienne quelque chose vraiment de prioritaire. La deuxième, il faut que la formation soit vraiment démise à tous les niveaux. Chaque formation devrait faire l'objet de suivi régulier. Et ce suivi ici en Côte d'Ivoire devrait être confié au ministère de la famille, de la femme et de l'enfant et à l'Observatoire de l'équité et de l'égalité.
Retour sur les motivations de ce dialogue politique avec Ibrahima Cheikh Diong, le directeur général de la mutuelle panafricaine de gestion des risques.
La mutuelle panafricaine de gestion des risques a été créée par l'Union africaine essentiellement pour aider nos pays membres à pouvoir mieux planifier, mieux se préparer et répondre aux catastrophes liées au changement climatique ou aux épidémies. La Côte d'Ivoire est un des pays fondateurs de cette institution. Il est clair Clair que c'est important qu'on soit là d'abord pour deux raisons. La première, on vient de tenir notre conseil d'administration à Abidjan. Aussi, la Côte d'Ivoire a été choisie pour habiter les sièges de l'institution. Et puis, troisième raison, c'est qu'on voulait avoir un dialogue sur les questions de genre et les questions de catastrophe. Et la réunion qu'on a eue nous a permis de voir les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée, mais aussi les recommandations pour pouvoir renforcer la protection des femmes en cas de catastrophe, notamment pour le changement climatique, mais aussi pour les épidémies.
À noter que la Côte d'Ivoire fait partie des 6 pays de la CEDEAO bénéficiaires de ce projet.
Parlons à présent du service civique. Après qu'en 2023, année de la jeunesse, 1300 jeunes ont transité dans les services de centre civique pour un peu plus d'un milliard de francs CFA, c'est ce 1er mars justement que va s'effectuer la rentrée 2024. On rappelle donc un vaste projet de construction de 14 centres de service civique ont coûté 29 milliards de francs CFA. Ce projet donc est en cours. L'objectif étant d'accueillir 14 000 jeunes par an à compter de 2024. Écoutons à ce propos Amara Koulibaly, directeur de l'action pour le service civique.
Les centres de service civique sont ouverts. Les inscriptions sont ouvertes, qu'ils viennent s'inscrire. Il s'agit de faire en sorte que des jeunes qui peuvent avoir le sentiment que tous les horizons sont bouchés, de faire en sorte que ces jeunes-là puissent avoir cette lueur d'espoir-là, ces jeunes-là puissent avoir cette possibilité-là de pouvoir s'insérer au niveau social et au niveau professionnel. Les inscriptions sont entièrement gratuites. Donc j'en appelle à l'ensemble des jeunes. Et quand je dis jeunes, je parle aussi bien de jeunes filles comme de jeunes garçons, puisque sur nos centres, il y a des jeunes filles qui sont également admises. On a même un programme spécial qui s'intéresse aux jeunes filles et aux jeunes femmes mères, c'est-à-dire celles qui ont des enfants à bas âge et qui peuvent être empêchées justement par le fait que cet enfant est là de suivre une formation. On a des programmes spéciaux qu'on organise sur nos centres de service civique avec ces jeunes filles, avec ces jeunes mères, en faisant en sorte qu'elles puissent s'occuper effectivement de leurs enfants. On va donc ouvrir une crèche. On a des centres de services civiques où il y a des crèches qui sont ouvertes sur le centre, encadrées donc par des éducatrices préscolaires qui vont non seulement suivre la mère elle-même, mais également l'enfant sur les questions de nutrition et sur les questions de bien-être de l'enfant.
Amara Koulibaly, il est le directeur de l'action pour le service civique. Et puis les acteurs de la plateforme de concertation autour de l'école se sont retrouvés le mercredi à la préfecture de San Pedro. L'objectif de cette rencontre, exposer les problèmes de l'école à San Pedro afin d'apporter des solutions et permettre de bons résultats scolaires. Kofi Benson.
La plateforme de concertation autour de l'école, une idée du préfet de région Ousmane Koulibaly, est une tribune qui permet d'exposer les problèmes de l'école en vue d'envisager des solutions. Pour dire à Souba Moussa, directeur régional de l'éducation nationale à San Pedro, chacun à son niveau peut agir pour une école plus performante.
On s'est dit qu'il faut faire en sorte qu'on puisse améliorer les résultats à tous les niveaux. Et cela passe naturellement par l'implication de tous. Il y a des coachings pour les élèves, pour le personnel administratifs et enseignants. C'est tout ça que nous sommes venus exposer pour montrer à tous les acteurs que c'est vrai, il y a des difficultés. L'état de certains établissements et puis les cas d'insécurité, de drogue, des fumoirs aux abords de nos écoles, mais il y a des pistes de solutions.
Quelques pistes de solutions proposées par Sadogo Fatmata, secrétaire général 1 de la préfecture de San Pedro.
Il faut recenser tous les points pour pouvoir démanteler tous ces fumoirs-là, parce que ce n'est même pas agréable d'entendre qu'il y a des fumoirs qui se trouvent aux abords des établissements. Au niveau du paiement des indemnités de correction, ce sont des choses qui ne vont pas exister encore. Monsieur le trésorier sera instruit à l'effet que ces paiements se fassent le plus tôt possible. Si nous sommes tous ici, c'est grâce à l'école. Il faut que nos enfants puissent avoir une base. S'il n'y a pas d'infrastructure, on ne peut pas attendre des résultats. Tout ce qui a été évoqué ici, ce sont vous les collectivités que nous regardons.
Des collectivités décentralisées qui devront répondre aux besoins en infrastructure et matériel didactique. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
En page africaine, le porte-parole du gouvernement a annoncé jeudi la mort du principal opposant au général Mahamat Idriss Déby. Son cousin Yaya Dilo Djerou, c'est au Tchad. Il a été tué mercredi dans un assaut mené par l'armée contre le siège de son parti qu'il accusait d'avoir mené la veille une attaque contre les locaux des services de renseignement. Ses soutiens dénoncent un assassinat pour l'évincer de la présidentielle prévue dans 2 mois. Il était l'opposant le plus virulent à la junte au pouvoir. Yaya Dilo Djerou a succombé à ses blessures mesure après avoir lui-même tiré sur les forces de l'ordre, a déclaré jeudi à la radio d'État le ministre de la Communication tchadienne Abderrahmane Koulamala. Et puis chez nous, décoration des acteurs de la Coupe d'Afrique des Nations après les joueurs, les encadreurs au palais de la présidence il y a quelques semaines. 193 autres acteurs impliqués dans l'organisation de la CAN ont été distingués dans l'ordre du mérite national. C'était le mercredi 28 février dans les jardins de la primature à l'initiative du Premier ministre Robert Beugré Mambé en présence du grand chancelier et des membres du gouvernement. Les décorés ont été faits commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre national du mérite. Écoutons le Premier ministre Robert Beugré Mambé.
Si on pouvait décorer les 29 millions d'Ivoiriens et tous nos accompagnateurs du monde entier qui nous ont acclamés, qui nous ont soutenus dans cette grande compétition, les Ivoiriens nous ont donné la preuve que ce pays est un très beau et grand pays. Si on pouvait les décorer tous, on les aurait décorés. Mais vous qui avez eu la chance d'être décorés, je vous demande pardon. Nous sommes les représentants des 29 millions d'Ivoiriens et de tous les amis de la Côte d'Ivoire. Je vous assure, tous ceux qui vivent dans le pays ont porté le maillot de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas d'Ivoiriens. Tous supportaient des éléphants. Ça a été un moment de communion extraordinaire. C'est pourquoi je voudrais demander humblement à tous ceux qui ont été décorés, pardon, la décoration, on vous a choisi, hein, mais c'est pour tous les Ivoiriens. La CIE, la SODECI, la GERUT, la SOTRA, le BENET, Côte d'Ivoire Énergie. Mais les artistes ivoiriens m'ont étonné. Parce qu'ils prennent deux ou trois petits mots, ils vous font une chanson, mais ça déstabilise l'adversaire. Il dit, coupe là, c'est chez nous. On marque quand on veut. On encaisse quand on veut. On rate pénalty quand on veut. On arrête pénalty comme on veut. Les transporteurs, les gloires du sport, tous les Ivoiriens méritent d'être décorés. N'oublions pas, notre plus grande richesse, c'est la grande fraternité que Dieu nous a donnée en cadeau pour que nous soyons tous des frères et des sœurs.
Voilà, c'était le Premier ministre Robert Beugré Mambé. Sans transition, retrouvant Jean-Mélène Bitty pour la revue des titres. Mélène, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous. Le dégarpissement des quartiers précaires entamé par le district d'Abidjan il y a plus de 10 jours continue d'être le chou gras des journaux ivoiriens. À ce sujet, il suffit de prendre pour exemple le Nouveau Réveil qui écrit à sa une « Après le dégarpissement à Jesco, Banco, Boribana et Mossikro, l'opposition en soutien aux sinistrés, le RHDP nargue. » De même que dans le Béli intrépide, le PDCI RDA lui appelle le gouvernement à agir en toute urgence car la situation des dégarpis de Jesco est alarmante. Toujours sur la même question, Génération Nouvelle indique que Ouattara fait le médecin après la mort, parlant des dégarpissements à Abidjan. En outre, le Jour Plus, quant à lui, a donné la parole aux partis politiques après la sortie du président Ouattara. L'Inter lui consacre sa une aux coulisses de la rencontre entre Bitogo et les maires sur le dégarpissement des zones à risque. On referme ce chapitre de dégarpissement avec l'essor ivoirien qui barre à sa une dégarpissement à Jesco, le district apporte son soutien au collège Chahélène. Un séminaire sur le revêtement routier s'est tenu récemment en Côte d'Ivoire. À ce propos, dans le matin, Amédé Kouakou annonce de grands changements. À la une du Patriote en pays, réalisation de grands projets structurants de 2011 à 2023, 3 000 milliards de francs CFA d'investissement dans le secteur routier. Construction des routes, Amédé Kouakou ouvre les travaux d'actualisation du manuel de conception des chaussées, fait savoir à son tour l'essor ivoirien. Il est suivi par le rassemblement qui titre « Pour des routes durables, les experts mettent à jour le catalogue de 1977 ». La visite du PPACI au général Dogboblé, récemment gracié par le président de la République, est aussi traitée par certains journaux proches de ce parti. Et c'est le temps qui ouvre le bal en mettant à sa une « Acte de solidarité, le PPACI chez le général Dogboblé. Il est suivi par la voix originale qui met en manchette PPACI chez Dogboblé, reconnaissance et fierté de Gbagbo au général. Pour faire complet sur le sujet, la Nouvelle Alliance écrit à sa une semaine après sa libération, Dogboblé reçoit la visite du secrétariat général du PPACI. Et puis ce fait divers, celui des 3 élèves présumés dealers de drogue arrêtés par la douane ivoirienne à Abouasso. Et sur ce sujet, c'est l'expression qui donne l'information en cette termes. Lutte contre la drogue. 3 présumés élèves à dealers mis aux arrêts. L'héritage lui écrit à Boisseau, des trafiquants de drogue arrêtés. Voici l'essentiel de l'actualité vue par les journaux de ce vendredi 1er mars 2024 en Côte d'Ivoire. Merci à vos bacs à journaux et bonne lecture.
Merci également à vous Jean-Mélène Bitty. Je rappelle qu'on vous retrouve tout à l'heure dans le prochain journal. Présent l'invité de la rédaction, la SCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures de l'Afrique et des diasporas africaines, célèbre cette semaine son 20e anniversaire. Entre soirées artistiques, expositions et conférences, que retenir de ces 20 ans et quel est l'impact des travaux des académiciens sur la vie des populations? Le président de la SCAD est aujourd'hui l'invité de la rédaction, professeur Antoine Owa Sepo est en notre compagnie. Professeur Owa Sepo, bonjour.
Bonjour, c'est bien.
L'académie dont vous tenez les rênes a 20 ans cette année, sous quel signe vous placez ce 20e anniversaire?
C'est un signe du changement. Lorsque nous arrivons en majeure, c'est que nous avons donc d'autres perspectives. Il faut donc envisager un passage, évidemment avec un bilan et puis une projection dans l'avenir.
Aujourd'hui, après 20 ans, quel est le regard? Est-ce que la SCAD est sur la bonne voie? Est-ce que la route est encore très longue, professeur?
Nous sommes de plus en plus enracinés dans la conviction que rien ne se fera sans la science. C'est-à-dire, en fait, quand je parle de la science, c'est la connaissance et le savoir. Et la première ressource de la nation, c'est la conjonction connaissance-savoir. Maintenant, est-ce que parti de là, nous sommes sur la bonne voie ou là? Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Alors que nous avons peu de moyens, nous avons engagé des programmes de formation des scientifiques, à travers notamment notre commission d'attribution de bourses et notre commission d'attribution des prix. Nous avons aidé des scientifiques, nous avons organisé des concours, et ça, c'est une fierté pour nous. Et à l'occasion, nous avons découvert que ce pays regorge vraiment de talent. Les intelligences, il y en a.
Vous avez parlé de bourses, du prix ASCAD, on a les rencontres scientifiques, on a des publications. Professeur, aujourd'hui, quel est l'impact de ces activités sur la vie même des concitoyens?
C'est difficile à mesurer, mais dès lors que vous formez des cadres, vous aidez en tout cas, parce que nous ne sommes pas les seuls, vous formez des cadres et vous les renvoyez sur le terrain social, forcément vous avez un impact. Nous avons des gens qui sont dans des sociétés, il y en a qui sont dans les industries, un peu partout. Donc l'académie a un impact forcément. Et surtout, si vous voulez, pour être plus concret, nous avons des partenariats avec, par exemple, les ingénieurs, les architectes, avec les scientifiques de tous bords. Nous développons beaucoup ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, n'est-ce pas, académique. C'est-à-dire que nous avons un impact en participant, par exemple, à des travaux. Actuellement, nous sommes sur des projets d'État où des académiciens sont engagés. Nous avons des conseils, par exemple, nous avons des séminaires pour les professeurs, de formation et tout ça. Donc, nous avons un impact. Nous n'avons pas voulu être une académie qui s'enfermerait dans sa tour de voix.
Au-delà des populations, est-ce que le pouvoir étatique vous consulte, vous sollicite souvent, professeur, vous qui êtes des experts?
On aurait voulu être plus sollicité, mais ils nous sollicitent quand même. Ils ne sont pas sollicités à la hauteur que nous espérons. Et je pense que à l'occasion de ce passage-là, nous allons tout faire pour être sollicités, parce que nous estimons qu'il y a des moyens matériels, des moyens financiers qui ont été mobilisés pour nous former et il faut qu'on travaille plus.
Alors, petit regard scientifique, vous êtes un peu inquiété justement de la tournure que prennent les choses. Finalement, réchauffement climatique, vous avez relevé que ce qui était universel est maintenant contredit, tout est presque remis en question. Est-ce que c'est alarmant?
C'est pas alarmant, je pense que c'est une opportunité. En prospective, on peut dire une opportunité. Il y en a qui trouveront le changement super comme une catastrophe. Mais si vous êtes stratégiste, vous dites que c'est une opportunité. C'est-à-dire que les changements comme ça qui vous mettent tout en question obligent, n'est-ce pas, les citoyens, les milieux scientifiques à rechercher d'autres solutions. Pendant longtemps, on peut dire en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, il y a l'eau, il y a la pluie, tout ça. Bon, donc, il suffit de jeter des grains, tout pousse. Mais attention, on se rend compte maintenant que c'est pas... Vous avez vu la chaleur qui commence à faire, vous avez vu? Nous risquons d'avoir des problèmes sur nos récoltes et tout et tout. Ça, c'est la menace. Mais chaque menace, à côté, il y a l'opportunité. Puisque nous sommes menacés, les gens m'ont dit, mais attention, il faut pas couper les herbes, il faut pas couper les arbres n'importe comment, il faut pas polluer les niches d'eau, parce que voilà ce qui va se passer. Voilà. Donc, chaque menace, n'est-ce pas, appelle, si vous êtes stratégique un peu, appelle des opportunités, prendre d'autres attitudes, prendre d'autres résolutions.
Alors, vous êtes un observateur averti de la vie sociale et politique de la Côte d'Ivoire, une opération de déguerpissement avec sa vague d'émotions et de réactions. Un mot sur ces différentes situations?
Si vous ramenez ça en science, toute l'organisation subit des hauts et des bas. Maintenant, comment faire Ce qui m'intéresse, tout ça, j'observe quels sont les mécanismes qui envoient ça. J'essaie de voir comment faire. Je vous donne un exemple. Pendant l'histoire de déguerpissement, on peut éduquer les citoyens à prévenir ça, ou bien en tout cas à atténuer, ou à s'habituer, à se mettre en accord avec la. Pendant il y a beaucoup qui connaissent la préparation d'urbanisme d'Abidjan. Nous, j'ai vu ça. Alors, ce que les stratégies représentent, c'est d'éduquer civiquement, politiquement, stratégiquement les citoyens à éviter l'accrochage sur le terrain. Il y a des programmes d'éducation. Maintenant, si c'est en politique, il y a d'autres manières de juger. Et l'éducation, c'est notre. On l'informe. Qu'est-ce que la ville? Qu'est-ce que les propriétés? Qu'est-ce que le climat? Qu'est-ce que. Sinon, vous regardez par exemple sur la rue, comment les gens circulent. Ils voient par là, le type, on met le feu rouge, ils passent. Donc, je pense qu'il y a une analyse qui est l'analyse scientifique. Elle est dépassionnée, elle est constructiviste. Elle essaie de voir l'ordre des choses. Et puis, en même temps, ça ne s'arrête pas là. Elle trouve comment on peut remédier à ça.
Professeur Assepo, président de l'ASCAD, je vous remercie.
C'est moi. Merci beaucoup, si vous voulez.
Invité de la rédaction, nous recevions pour vous à l'instant le professeur Antoine Assepo, président de l'ASCAD, qui revenait sur les 20 ans d'existence de l'Académie. Et puis notons que hier, jeudi 29 février, s'est tenue la cérémonie officielle avec comme dénouement la conférence inaugurale prononcée par le vice-président de la République sur le thème éducation, formation, emploi. Cet entretien referme ce journal de 7h, le rappel des titres. Le gouvernement ivoirien veut renforcer la sécurité du pays à partir des ambassades, volonté et information portée lors du Conseil des ministres du mercredi. Et puis la mutuelle panafricaine de gestion des risques a organisé un dialogue politique ce mercredi 28 autour du thème genre, urgence sanitaire et gestion des risques de catastrophe. Et puis en page africaine au Tchad, le principal opposant à la junte, Yaya Dilo Djerou, tué par l'armée au siège de son parti. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous 8h.